La dispute. Ce soir, les arts plastiques. Cette émission est préparée par Lisa Bozès, Justine Dibling, Virginie Dio et Boris Pinot. Prise de son assurée ce soir par Pascal Bénard, réalisation Daniel Finot. Ce soir, Corinne Rondeau et Frédéric Bonnet se font face à notre affiche Le Mystère, le Nain, au Louvre Lens, et Le Pouvoir des Fleurs, Pierre-Joseph Redouté, au Musée de la Vie Romantique. Nous évoquerons plus rapidement l'exposition Géométriquement Douce à Galerie Jean Fournier et la Biennale de Whitney à New York. Vers 21h20, Xavier Martini nous entraînera dans le petit salon pour faire le point sur l'implantation du Louvre à Lens et du Centre Pompidou à Metz. Puis, bien sûr, encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir. Des passes pour deux personnes pour accéder à Étonnant Voyageur, le festival international du livre et du film qui se déroule à Saint-Malo du 3 au 5 juin. Après le Centre Pompidou-Metz, il y a deux semaines, ce soir nous prenons la direction du Louvre Lens pour y découvrir l'exposition Le Mystère, le Nain. Ne nous y trompons pas, le mystère concerne trois frères originaires de Laon, en Picardie, artistes très en vue au XVIIe siècle. Les commissaires sont Nicolas Milovanovic et Luc Pirala, une exposition organisée par le Louvre Lens, le Kimball Arts Museum de Fort Worth et les musées de San Francisco. Le Mystère, le Nain, qui nous invite à regarder de plus près les œuvres de Louis, le moins connu et présenté comme le plus talentueux, Antoine, le portraitiste miniaturiste, et Mathieu, qualifié d'ambitieux. Nous reviendrons sur ces différents qualificatifs. Il n'y avait pas eu de grande exposition consacrée aux frères depuis celle du Grand Palais à Paris en 1978. L'exposition de Lens cherche donc à distinguer le mérite de chacun, notamment concernant les scènes paysannes, à décerner les vrais, le nain des travaux de leurs suiveurs ou contemporains, de savoir dans certains cas quelles mains sont responsables, de quelles morceaux de tableaux dans leur collaboration. Donc c'est un très vaste programme auquel nous convie le Louvre Lens. On commence avec vous, Corinne Rondeau.
Oui, mais écoutez, j'étais très heureuse de voir cette exposition parce que d'abord, je n'aime pas les nains.
Mais, c'est une première bonne raison.
Oui, et puis parce que finalement, c'était, il y a quelques années, à l'Orangerie, il y avait eu une tentative justement de cette exposition 78, c'est ça, il y avait une tentative de remettre en scène l'accrochage, et bon, il y avait quelques nains. Donc moi, j'ai gardé en mémoire toujours un repas de paysans qui est au Louvre, qui est bon dans l'exposition, avec un portrait d'homme très lumineux que j'ai toujours associé à un Christ, un repas chez Emmaüs en fait.
Et bon, moi, je crois que c'était ça aussi.
Oui, mais donc là, voilà, j'y allais avec très peu de choses finalement dans la tête. Et donc l'exposition m'a paru à la fois intéressante, pas parce qu'on pourrait avoir du goût pour cette peinture, mais parce qu'elle reste une enquête. Voilà, et comme le disait Champfleury, qui était lui-même de Laon, il était, hein, qui disait que c'était des peintres ouvriers. Ils sont, s'ils sont trois, ils n'en font qu'un. Et c'est vrai, et ça restera sans doute vrai. D'ailleurs, l'exposition nous accueille avec trois tableaux auxquels on ne pense pas en pensant au Le Nain. Une allégorie, un Bacchus et Ariane, et une Vénus à la forge avec Vulpin. Vraiment, ce tableau est assez formidable, parce que je trouve que c'est vraiment les dieux chez les hommes. Et ça, c'est vraiment remarquable, je trouve, parce que la dimension divine n'y est pas. Quasiment pas, et qu'on va retrouver ce côté paysan très marqué, parce que chez les Le Nain, c'est Louis qui marque le plus l'imaginaire, ou en tout cas les souvenirs de la peinture des Le Nain. Et ensuite, c'est ces trois tableaux qui sont un petit peu une surprise, puisqu'on pense toujours aux paysans, et puis on arrive à ce triple portrait, où on s'est posé la question, qui était Antoine, qui était Louis, et qui était Mathieu, donc ça serait Mathieu, Louis et Antoine, en partant de la gauche vers la droite, du portrait le mieux fini au portrait le plus inachevé, le tableau était inachevé, et il y a un portrait de femme de profil qu'on va retrouver peut-être de face dans un autre tableau plus loin. Alors, toute l'exposition, effectivement, on commence par celui qui est le plus présent dans l'histoire pour tout le monde, c'est Louis, le génie, point d'interrogation. Donc là encore, l'exposition, je prends la marque de ce que sont les historiens, parce que être historien, je crois que ça demande beaucoup d'humilité, beaucoup de travail, et cette exposition remet sans arrêt le travail à l'ouvrage pour les historiens, ce que doit être l'histoire de l'art. Et comme l'espace du Louvre Lens dans sa partie d'exposition, même si c'est temporaire. 6 mois d'exposition temporaire, c'est quand même un grand espace dans lequel les parties de médiation ne sont pas gênantes pour le parcours de l'exposition. Et ça, je trouve que c'est une grande force, parce qu'ils le font très bien. C'est la raison pour laquelle, dès qu'on rentre avec... On est sur les tableaux, on les regarde. Moi, j'ai passé vraiment un temps fou à regarder les détails, revenir de partie en partie, parce que j'ai fait mon enquête moi-même. Et donc, on voit effectivement, à l'intérieur des salles, aussi des ouvrages qui sont sur des plaques, des tablettes numériques qu'on peut consulter. C'est là qu'on verra le miniaturiste Antoine, on verra toutes les traces qu'on peut retrouver à gros traits dans l'exposition. Puis ensuite, on voit qu'ils vont peindre beaucoup sur des tableaux, beaucoup de portraits de femmes qui vont être recouverts par d'autres tableaux. Bon, mais l'exposition, je l'ai trouvée assez remarquable dans son ensemble, parce que elle ne lâche pas l'idée qu'il y a des hypothèses, que même le triple portrait reste une hypothèse, peut-être fragile, comme le dit Pierre Rosenberg, qui a beaucoup travaillé avec Jean-Pierre Cuzin, qui sont même opposés à des périodes assez proches l'un de l'autre, que c'est encore des historiens qui remettent les choses sur le tapis. Et quand vous êtes le spectateur de ça, ben vous êtes un petit peu comme l'historien, mais avec beaucoup moins de références historiques. Vous allez chercher le détail. Antoine ne sait pas peindre les mains, par exemple. C'est clair que Louis peint des... Ce qui est très étonnant dans sa peinture, c'est des groupes de personnages, de paysans, souvent sur une ligne même, toujours avec une miche, un verre de cristal, alors qu'on n'imagine pas un verre de cristal, mais il faut trouver un verre, et c'est le seul verre peut-être qu'ils ont, toujours rempli d'un verre de vin, la cruche, le pain, le verre de vin, cette manière dont les personnages sont toujours dans la fatigue ou l'abattement, ça c'est très significatif de sa peinture, enfin de leur peinture, on va dire. Il a une facture des sombres post, je dirais, caravagiens, donc il a une influence italienne, et en même temps, sur les groupes de personnages, ça fait vraiment peinture flamande. Ouais. On sait qu'ils ont été formés par la tradition hollandaise et flamande, que par ailleurs, certains ont voulu, à une certaine époque, leur donner une influence d'une école italienne, mais aucun d'eux n'est allé en Italie.
Qu'on sache,
il y a un côté presque Velasquien ou Ribera.
Ah oui, oui.
Dans la manière de peindre.
Il y a un portrait de femme notamment qui pourrait être d'une école de Velasquez, vraiment.
Tout à fait, avec la manière de peindre le haillon. Et pas de les peindre tous en haillons d'ailleurs. Il y a c'est très terreux. Il y a un côté de fond de céruse qui met comme ça le tableau reste bien à plat vers le regard du spectateur. Donc moi j'ai pris vraiment un grand plaisir.
On va développer avec vous dans un instant, inspecteur Bonnet. Alors l'enquête, le mystère Le Nain. Où en est-on, inspecteur?
Je pense que cette exposition, elle fait effectivement quand même avancer la science. Et ce en quoi elle est remarquable, c'est que elle met à la disposition du public une partie de ces nouveaux éléments de manière très intelligible. Ce qui n'est pas forcément le cas. Souvent, on vous propose des expositions qui présentent des avancées de la recherche et des nouveautés. Mais bon, le public initié ou peu initié, va pas forcément faire la différence et va pas pouvoir rentrer dans le détail des choses. Là, ce qui est formidable dans cette exposition, c'est que en plus de proposer pour la première fois cette distinction assez tranchée qui est intéressante entre le travail des trois frères, bien que parfois des doutes subsistent, mais encore une fois, on n'est pas dans une discipline arrêtée. Justement, moi, je trouve que le grand intérêt de cette exposition, c'est d'affirmer clairement que l'histoire de l'art n'est pas une science figée, que même quand on s'attache à des périodes anciennes, eh ben on est toujours en train de d'émettre des hypothèses, d'avoir des doutes, de chercher parfois à établir des certitudes ou des relations. Et il y a dans cette exposition une mise en espace de la diversité scientifique qui est assez bienvenue. Faut savoir qu'avec le nain, on n'a quand même pas fini de s'interroger parce que on estime à 90% la production disparue et qu'on connaît grosso modo que quelques 75 tableaux. Donc il y a sans doute, quand on dit 90%, c'est que ça se base sur les registres de commandes, ouais. Notamment. Le chiffre, il sort pas de nulle part. Ce qui est intéressant quand on rentre dans cette fabrique, le nain est donc dans cette fabrique de l'histoire de l'art. Et bien, c'est de constater, par exemple, que les le nains ont souvent retravaillé sur des tableaux existants, ce qui laisse à penser et ce qui amène à penser aussi, ça on ne le voit pas dans l'exposition, mais on le sait si on fouille un peu plus, que contrairement à beaucoup de d'autres peintres du XVIIe siècle, ils n'ont pas travaillé systématiquement sur commande, pas que en tout cas, qu'ils ont eu très peu de commandes prestigieuses, mais que à l'inverse, ils auraient plutôt beaucoup travaillé pour des commanditaires d'une bourgeoisie moyenne. Et c'est en ça que la relation entre la peinture religieuse et la peinture notamment paysanne, qui est quand même un des aspects les plus prodigieux du travail et qu'il y a une jointure qui se fait entre ces deux-là, parce que quand il travaille, on est en pleine période de contre-réforme catholique et qu'il n'est pas exclu que une partie des gens qui les aient soutenus et qui leur aient commandé des peintures aient été des bourgeois bourgeoisie moyenne soucieux de intéressés par une peinture mêlant à la fois un aspect profane, donc proche du peuple, et à la fois des questions d'ordre religieux avec des thèmes relatifs à la charité, donc aux paysans, etc. Et ce qui est intéressant aussi dans cette exposition, c'est que sont distillés ci et là quelques éléments qui permettent de rentrer un petit peu justement dans ce profil de l'enquête. Notamment, il y a un film très intéressant qui vient appuyer ce que je viens de dire quant au tableau de commande ou de pas commande et de réusage des tableaux. Il y a un film très intéressant qui montre des radiographies et qui montre que alors ils n'ont eu mais aucun problème à venir retravailler sur les tableaux existants, à les recadrer, à les découper et en faire vraiment autre chose. De même que il y a aussi un petit coin de l'exposition où on s'intéresse au support de travail, comment est-ce que la peinture sur bois a un effet sur la peinture, comment est-ce que le support cuivre a un autre effet. Donc voilà, il y a plein de découvertes à faire. De même dans les questions de réattribution, j'ai trouvé intéressant d'isoler certains des tableaux en fin de parcours en reposant les problématiques qui sont toujours en cours parfois dans les attributions. Par exemple, l'Académie du Louvre qui a longtemps été attribuée au Le Nain et qui finalement n'est plus dans le catalogue aujourd'hui parce que une étude a permis de démontrer qu'il n'y avait qu'une seule couche préparatoire alors que les Le Nain faisaient systématiquement deux couches. Et moi j'ai trouvé ça très intéressant qu'on ait isolé ce tableau et qu'il y ait un texte un peu didactique mais pas non plus
pas
scientifique,
lourd, hein, ouais,
pas lourd, voilà, qui explique ça et ça
vraie pédagogie.
Ça rend la chose absolument intelligible à tout le monde.
Ouais, mais ça s'inscrit vraiment dans le cadre du travail du Louvre-Lens, qui dans son ensemble d'abord est quand même un musée absolument formidable, dans lequel j'ai toujours un grand plaisir d'aller. J'en dirai aussi un mot tout à l'heure, mais c'est vrai que cette façon aussi d'isoler les tableaux, je pense c'est quasiment à la fin quand on voit la tabagie, qui est tout à fait isolée, qui est un tableau devant lequel on peut aussi passer beaucoup de temps. Mais revenir peut-être aux paysans, notamment à la famille de paysans, parce que c'est vrai que c'est quand même on l'a peut-être pas assez dit, ce qui les distingue quand même de la création de l'époque, c'est cette façon de figurer les paysans. Alors, dans ce mélange que vous évoquiez, Frédéric Bonnet, presque dans des scènes qui pourraient être des scènes religieuses, mais qui sont avec des gens du peuple. Alors, je ne fais pas souvent de citation de ces émissions plastiques, mais la phrase de Claudel, quand même, parlant de ce tableau des paysans, où il parle de ces modèles qui sont assis de tout le poids de leur personnalité dans la conscience de leur conscience et se donnant à eux-mêmes le spectacle de leur justification. Vous irez voir par vous-même ce texte plus long de Paul Claudel, mais c'est vrai que la présence de ces modèles est quand même très impressionnante. Il y a à la fois une solennité, une gravité, alors qu'on est dans des scènes apparemment de la vie quotidienne, Corinne Rondeau.
Oui, mais moi, ce qui m'a marqué le plus, il y a même un tableau quand on rentre tout de suite sur la droite, c'est une scène de jeu, de cartes, et il y a un enfant, il y a beaucoup, d'ailleurs, dès le début, il y a beaucoup d'enfants, même les anges loups, les chérubins, ont des têtes d'enfants, d'enfants de rue, mal coiffés, il y a un châtain, il y a un brun à côté, et moi, vraiment, j'avais toujours l'œil décalé, non pas vers la scène, à regarder la Vierge, ou je ne sais quoi, puisqu'il y a quelques scènes religieuses chez Louis, beaucoup plus chez Matthieu, mais chez Louis, il y en a quelques-unes, mais ce qui est très étonnant, c'est que même dans le caractère religieux, il y a une facture très pesante, très présente des individus. Mmh. Et sur un premier tableau de jeu de cartes, il y a un garçon sur l'extrême droite du tableau. Il est cadavérique. Mmh. Ce garçon est en train de jouer peut-être sa dernière carte. Il est malade. Et les individus, je ne sais pas si c'est la conscience de Claudel, qui parfois en fait trop.
Mais on aime
Claudel. On est d'accord. Mais ce qui est évident, c'est la question de l'abattement. J'ai l'impression que si c'est Louis qui les a peints, et sans doute c'est Louis parce que c'est la production la plus imposante, il faut dire que ces tableaux étaient quand même très, même à l'époque, on parlait, enfin, plus tard même, je crois, on parlait d'eux en 1850, on parlait d'eux dans la presse populaire et pas dans les revues scientifiques. Ça, c'est génial. Parce que dès que Champfleury va s'y intéresser avec beaucoup plus d'intérêt, non seulement ce sont des peintres ouvriers, pour lui, mais en plus, ce sont des précurseurs des réalistes. Mmh. Donc, en fait, ils retrouvent chez les Lenain quelque chose de la peinture française, du terroir, hein, même. Ils parlent du terroir, d'une certaine manière. Et c'est pas, qu'est-ce qu'on a en France? On a un de Champagne, un Poussin, enfin, je veux dire, tout ce qui est du 18e chez nous, très éloquent, très élégant, c'est pas du tout du. Et là, on a vraiment une peinture ouvrière. On a même du sujet ouvrier. Et en fait, ils sont présents dans leur abattement. Je trouve qu'ils sont dans la présence de leur labeur, alors qu'ils ne sont pas au labeur. Mmh. Et c'est ça qui est très fort, c'est-à-dire qu'ils les mettent, ils les mettent vraiment dans leur espace qui est le plus intime. C'est peut-être ça la conscience de la conscience chez Claudel. Ils les mettent dans leur conscience intime de ce travail à l'intérieur d'eux-mêmes, parce que les personnes sont très isolées, ils sont très solitaires à l'intérieur d'une scène familiale, par exemple. Ce qui va se partager du pain, on ne sait pas si ça se partagera. Il y a quelques erreurs d'ailleurs description dans le catalogue, mais je ne citerai personne. Et donc c'est vrai que c'est vraiment le fleuron des Lenain. Mais c'est vrai que par ailleurs, il y a beaucoup de détails qui sont troublants. Moi, je crois que comme Champfleury et d'autres, comme il y a eu des réattributions, des désattributions, on a vraiment la sensation qu'à plusieurs reprises, ils y ont passé la main dessus. Mmh. Il y a le concert, par exemple, de Matthieu. Si vous regardez le vieillard qui est à la gauche en train de jouer du flageolet, vous avez un autre qui joue aux luttes il a un bonnet comme un Père Noël d'ailleurs. Mmh. C'est comme, j'ai marqué, parce qu'il y a deux tableaux le concert, donc pour le distinguer, j'ai marqué le Père Noël. Et il y a une femme de profil qui ressemble à la femme du triple portrait, mais il tourne le visage. Et rien que cette indication, vous regarderez à quel point, par exemple, Matthieu, avec les tableaux de ses frères aînés, va tourner les visages, par exemple. Il y a un tableau atroce qui s'appelle l'atelier de Matthieu. Il y a un modèle qui fait face à un peintre. La perspective est nulle, un personnage au fond. Les profils sont atroces. Mais en fait, en bas, vous avez des têtes de statuaire et un chien qui regarde de face. Donc, il est tout le temps en train de chercher de l'orientation pour créer du mouvement dans un tableau qui n'en a pas, qui était déjà le problème qu'avait Antoine. Et je pense que vraiment le plus fort de tous, ça reste Louis, qui arrive à vraiment organiser. Et quant à la tabagie qui est signée Lenain, quand on est face à ce tableau, on se dit, c'est pas un le nain, c'est pas possible. Et on se dit, d'où vient ce tableau? Et on comprend à quel point l'académie dont vous parliez, qui est désormais anonyme, peintre flamand ou nordique en tout cas, a eu un rapprochement sur la scène de plusieurs hommes autour d'une table. Et peut-être aussi parce qu'il y a un personnage qui est sur les ocres, qu'on retrouve beaucoup chez Louis le Nain. Il y a un seul personnage qui a cette teinte ocre, pendant que les autres ont des costumes vraiment flamands, hollandais, collerette blanche, grand jabot, et puis c'est des rhéteurs, enfin, ou des orateurs, ils ont une tenue noire. Et celui-là, il est au centre, comme plaqué à la tapisserie, tout en ocre, et il regarde face, et on dirait presque un des frères le nain. Je pense qu'on est tellement sur des types de détails que là, voilà, il y a des troubles. Mmh. Je veux dire, même quand il y a la signature, on se dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et je trouve qu'effectivement, cette exposition, comme vous le disiez, Frédéric, est tout à fait remarquable sur la manière dont on peut recirculer une exposition et en même temps avoir ce didactisme qui est très simple. Et puis, les successeurs, il y en a deux de tableaux des successeurs, des suiveurs des le nain. Moi, je le maître des jeux et le maître des cortèges. Je viens entre le cortège du bœuf gras et les joueurs de tric-trac. Alors moi, j'étais sur le
postérieur. Postérieure. On n'a pas dit d'ailleurs aussi, soyons pédagogiques nous-mêmes, que Mathieu a longtemps survécu à ses frères qui sont morts assez jeunes, et lui, il a vécu 30 ans de plus, et donc la production évidemment n'est pas la même, et il y a aussi tout ce qui se transmet par-delà la mort. Encore un mot, Frédéric Bonnet, sur cette exposition ?
Oui, non, ce qui est d'assez, d'assez remarquable, d'assez intéressant, mais c'est ce que vous abordiez, Corinne, c'est que quand on commence à se pencher vraiment sur les détails des tableaux, c'est une peinture qui est en fait assez formidablement ambiguë, cette peinture des le nain, et peut-être que justement, ça vient du fait qu'elle ne répondait pas, pour l'essentiel, à de la commande, parce qu'on est quand même toujours beaucoup plus libre quand on peint soi-même dans son atelier que quand on doit répondre à une commande. Et que, évidemment, les tableaux pour Notre-Dame de Paris vont être beaucoup plus raides que des tableaux qui représentent une simple, entre guillemets, scène paysage. Ce qui est aussi assez remarquable, je trouve, dans cette peinture, et je pense que ça, il faut le souligner, c'est la qualité des éclairages, mais ça pour le XVIIe siècle, c'est pas forcément une nouveauté. Mais là encore, c'est un éclairage qui se distingue parce que ça n'est pas du caravagisme, ça n'est pas du clair-obscur, ça l'est parfois. Et il y a ce tableau, mais pas systématiquement, il y a ce tableau notamment stupéfiant de Louis, qui est un tableau de paysage avec des paysans dans un champ avec une charrette, et surtout la majeure partie du tableau, c'est le ciel, ce qui est quand même assez audacieux, je trouve, pour l'époque. Et il y a un travail des gris sur les nuages qui est assez spectaculaire. Et ça, je trouve que ce tableau-là est d'une nouveauté, et que effectivement, là aussi, vous parliez de travail ouvrier, de peintre ouvrier, mais là aussi, on est un petit peu quelque part dans une anticipation du 19e siècle. Et le texte, c'est très bienvenu que dans le catalogue, il y ait justement un texte sur l'intérêt porté par les le nains, sur les le nains au 19e siècle.
Alors le catalogue d'exposition justement dirigé par Nicolas Milovanovitch et Luc Pirella-Hung-Vong, il est coédité par le Louvre Lens et l'Iéna. L'exposition, elle, le mystère le nain, elle dure jusqu'au 26 juillet au musée du Louvre Lens à Lens. Et dire quand même qu'on ne peut pas aller au Louvre Lens sans prévoir une heure ou deux pour la galerie du temps qui continue de me fasciner, cet espace dont je ne me lasse pas, grand espace comme une très légère descente avec cette frise chronologique qui permet de mettre sur la même ligne temporelle des œuvres réalisées dans les endroits différents du monde. Comme ça, on peut voir ce qu'on faisait en Perse en 1100 et ce qu'on faisait aussi en Espagne à ce moment-là, ou en France ou en Hollande. Et c'est absolument, absolument merveilleux. Pour moi, c'est là encore modèle d'intelligence et de pédagogie, le tout dans une architecture aussi de ce Louvre-Lens, qui est vraiment pour moi une très belle réussite. C'est le cabinet Sanaa, les Japonais Kazuo Sejima et Ryue Nishizawa. C'est toujours aussi beau, non? quand on va au Libre-Lens. Vous êtes d'accord, Frédéric Bonnet?
Moi, j'aime beaucoup ce musée. Et puis, je trouve que la Galerie du Temps est un
des plus beaux endroits du monde pour voir de l'art.
Absolument remarquable. Parce que, avec les œuvres complètement détachées, qui semblent un petit peu flottantes, c'est vraiment un autre rapport à l'art et une autre perception et un autre vécu de l'art.
Voilà, donc ça c'est tout le temps au Louvre-Lens et jusqu'au 26 juin, le mystère, le nain.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
À suivre dans La Dispute, Pierre-Joseph Redouté, la galerie Jean Fournier, la Biennale du Whitney. Avant cela, nous sommes invités dans le petit salon par Xavier Martinet. Bonsoir, cher Xavier.
Et bonsoir, Arnaud.
Et nous prolongeons notre discussion précédente, puisque ce soir, vous nous emmenez dans des hauts lieux de la décentralisation.
Exactement, deux symboles de cette décentralisation culturelle sur le plan muséal. Donc l'un, c'est le Louvre-Lens, vous en parliez, il a ouvert fin 2012. L'autre, le Centre Pompidou-Metz, on en parlait il y a deux semaines maintenant. Il a ouvert au début de l'année 2010, lui. Le premier constat que l'on peut faire, c'est que pour la nuit des musées qui a eu lieu tout récemment, eux aussi ont fait feu de tout bois, comme les autres, avec concerts, animations pour la jeunesse et événements pour renforcer l'implantation locale. Le Centre Pompidou-Metz a eu droit il y a quelques jours à un éloge du Parisien. On y a vu, dit le journal, des ribambelles d'enfants, et cette exposition est faite pour eux, pour nous, pour tout le monde. Il parlait de l'exposition Jardin. Ces antennes délocalisées, donc des deux plus emblématiques musées nationaux et parisiens, étaient le pari culturel des cités industrielles, comme le résume bien Marie Gaudefrin dans un article du Monde en 2015. Il devait aider à faire revivre ces zones minières et industrielles sinistrées, dans une résurrection qu'on pourrait dire à la Bilbao. Alors même si leur surface est moindre, environ 7 à 8 000 mètres carrés, leur coût, respectivement 150 et 60 millions d'euros, est quand même un investissement important. Alors à première vue, aujourd'hui, la grève semble avoir pris. Le Centre Pompidou-Metz a organisé 25 expositions depuis son lancement. Le Paris était un peu fou, mais le centre a bel et bien sa place en Lorraine, dit France Info. Les restaurants et hôtels ont enregistré des hausses conséquentes de fréquentation depuis l'ouverture du musée. Et de même, le Louvre-Lens a changé l'image de marque du territoire. Reconnaissez-la une représentante de la Commission européenne dans la Voix du Nord au début du mois. Mais ce qui inquiète, c'est la gestion des musées, puisque malgré un faible sursaut en 2014, note le site Culturebox, eh bien la fréquentation baisse de manière continue. 440 000 visiteurs pour Lens l'année dernière, 300 000 pour Metz, alors que chacun visait au départ 500 000 visiteurs annuels. Depuis un an, en tout cas, la presse hésite et ne s'enthousiasme plus. Les commentaires les moins inquiétants sont pour Le Monde: le Louvre-Lens résiste aux menaces, et le Louvre-Lens contre-attaque pour France 3. Alors, est-ce une situation de pause ou d'attente, alors que leur programmation est assez régulièrement, mais pas forcément très intensément, qualifiée d'ambitieuse? Il reste en dehors des 15 musées, en tout cas les plus fréquentés, au palmarès des Échos en janvier, et ces musées n'apparaissent pas non plus parmi les 12 musées dynamiques des Hauts-de-France, du palmarès du Journal des Arts. Alors la situation est différente sans doute pour les deux établissements, moins inquiétante pour le Louvre-Lens près de Lille, dans un bassin muséal et culturel en plein développement, avec des projets nouveaux d'ailleurs, mais chacun a reçu sa volée de bois vert l'année dernière, et sur chacun pèse un soupçon aussi récurrent d'élitisme, notamment cet article du Monde qui a beaucoup fait parler, Jean-Michel Tobelem, qui parlait d'échec de la démocratisation culturelle pour le Louvre-Lens. Pour le Centre Pompidou-Metz, en tout cas, le budget incertain depuis 2014 a été stabilisé et l'isolement dont souffrait le musée atténué, disait sa directrice Emma Lavigne. Il ne faut donc pas non plus négliger le contexte local. Ce sont deux EPCC, établissements publics de coopération culturelle, financés majoritairement par les régions et collectivités locales, chacun avec un budget difficilement pérennisé de 15 millions d'euros environ. Mais une fois passé ce qu'on appelle dans la presse l'effet starter, eh bien la situation est incertaine, quoique une fréquentation quand même supérieure aux plus plus importantes institutions régionales comme les Beaux-Arts de Bordeaux qui font 225 000 visiteurs par an. Alors face aux questions en tout cas sur la fréquentation et la programmation, Emma Lavigne répondait sur France Bleu fin 2016 « Je pense qu'il ne faut pas avoir le regard fixé sur le baromètre de la fréquentation, c'est très important, mais c'est aussi très important de transmettre l'œuvre d'artistes moins connus. De fait, Warhol Underground au Centre Pompidou donc avait été une locomotive. L'exposition sur Michel Léris un peu moins, mais un certain succès quand même. Dernièrement, c'était Les Jardins, vous en parliez. Et certains projets ont quand même dû être abandonnés, à ce que j'ai compris. À Lens, vous venez de le dire, on tente cette formule très réussie, enquête pour l'exposition sur les frères Lenain. Et Marie Lavandier, donc la directrice, revendiquait pour l'année dernière 60% de public régional, 60% même dans l'arrondissement. Elle mise sur la médiation, elle n'hésite pas à faire glisser le calendrier d'exposition temporaire comme celle sur la Mésopotamie à l'année dernière qui a été avancée d'un mois. Alors j'ai pu lire, et je ne peux pas le vérifier, que les expositions qui fonctionnent très bien en 2016 étaient celles des artistes majeurs du XXe siècle. De ce point de vue, la politique de Lens et Metz vous semble-t-elle adéquate à cette demande? Et puis surtout, quel est le principal risque pour ces musées?
Ah, principal risque. D'abord, le constat quand même que ces musées, on en parle régulièrement, Pompidou-Metz beaucoup, c'est vrai que notamment sous la direction de Laurent Lebon, on a quand même vu une succession d'expositions de très grande qualité. Emma Lavigne a pris ses fonctions il n'y a pas si longtemps que cela. On continue bien sûr à en parler. Louvre-Lens, c'est vrai que nous en avons parlé un petit peu moins. Je parle là au niveau statistique, mais parce que les expositions durent, c'est ça, beaucoup plus longtemps. Hein, Cohen Rondeau, il y a beaucoup moins de... je cherche le mot français, mais...
De rotation,
merci Xavier Martinet. De rotation des expositions, elles durent plus longtemps, donc on en parle un petit peu moins, mais à entendre ce qu'on vient de dire sur l'exposition Le Mystère Le Nain, la qualité est au rendez-vous. Alors, quel risque? C'était ça la question?
Exactement.
Quel risque? Le risque de désengagement de l'État, de redonner ça aux collectivités locales, aux régions, Frédéric Bonnet?
Le risque de désengagement de l'État, c'est à mon avis le risque numéro un, évidemment, puisque c'est le risque principal, c'est le risque d'une perte de financement, et qu'on sait très bien que si les régions se retrouvent seules à devoir gérer des équipements culturels qui sont quand même des équipements lourds...
Oui, parce que 15 millions d'euros de budget, ça me paraît très peu. Hein.
Ouais. C'est relativement peu.
Pour des usines...
C'est même moins que le musée Confluence de Lyon, je crois.
Pour des équipements de cette taille.
Absolument, c'est très peu pour des équipements de cette taille. Donc déjà qu'on a des expositions qui durent 5-6 mois, là pour le coup on va se retrouver avec des expositions, avec une exposition par an au final. Et je crois justement que le chiffre que vous citiez, Xavier, fait la preuve de l'implantation sur les territoires et d'une démocratisation de ces outils qui ne sont pas... qui ne sont pas des instruments destinés à une élite. Quand vous parlez, Xavier, de 60% d'un public régional au Louvre-Lens, c'est quand même bien la preuve qu'il y a une véritable implantation sur le territoire, que ça répond, si ce n'est un besoin, en tout cas que ça rencontre un public et que ça crée une envie et un désir d'aller voir des choses et des expositions.
Parce que 60% de 440 000, je n'ai pas ma calculette, mais ça fait quand même dans les 250 000, ce qui est beaucoup de gens pour ce bassin de population.
Oui.
Bien sûr, non, mais ils nous saoulent avec leurs chiffres, quoi.
Oui,
ils font des projets, ils disent, il faut, 500 000. Ils sont à 450 000. On va pas aller, on va... Je veux dire, c'est quand même un boulot, énorme de faire fonctionner des établissements dont les superficies sont gigantesques, dont le travail scientifique est incontestable et incontesté. Enfin, je veux dire, le Louvre-Lens, puisqu'on en vient, ils ont un travail de médiation qui... Moi, je suis pas pour la médiation en général, parce que ramener du savoir pour voir, ça m'intéresse pas. Il faut d'abord voir. Et je crois qu'ils font un vrai travail là-dessus. C'est-à-dire que, par exemple, ils inversent, un type de rapport qui est « Allez, on vous apprend ». Non, on amène les élèves, par exemple, voir une exposition, la Galerie du Temps, et puis à partir de ce moment-là, les parents vont chercher leurs enfants à aller au musée. Des parents qui ne vont pas au musée. Et donc, les enfants, ensuite, vont leur dire, ils vont leur faire le parcours dans la Galerie du Temps. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose du musée qui incarne aussi la question de comment donner confiance à travers un objet qui est dit élitiste. Et donc, quand même, les gens qui sont censés en parler et juger disent c'est de l'élitisme, alors que le travail, c'est un travail à la fois sur les, avec les écoles, les parents, mais aussi dans les prisons. Il faut arrêter de nous saouler, je le redis. Ah, c'est pas joli, c'est vrai, vous avez raison, Arnaud. Mais non, mais c'est vraiment insupportable que de voir que cet outil qui est formidable, qu'on appelle un musée, dans lequel les gens peuvent se perdre et se retrouver, dans lequel ils peuvent être accompagnés ou laissés seuls, où le travail est loin d'être simple. Ces gens s'engagent vraiment aujourd'hui. Alors quand c'est tout beau, c'est tout neuf, les gens s'emballent, et puis après, il faut donner moins, parce qu'il y a moins de gens. Mais si la question de la culture a toujours été une question d'économie, mais elle n'a jamais été qu'une question d'économie. Donc à un moment donné, il va falloir quand même arrêter avec ces mots d'élitisme. Et là, je rejoins Frédéric en relevant ce terme, parce que quand on fait les calculs, évidemment, on est en train de familiariser des gens qui n'étaient pas familiers de l'art. Et parce que nous le côtoyons, nous, tous les jours, nous savons qu'on n'a pas de rapport à l'art et à la culture sans familiarité. Donc tout le travail de médiation qui est fait au moins par rapport à l'école, les prisons, avec des gens qui sont dans le bénévolat et en partenariat avec le Louvre Lens, je connais moins ce qui se fait à Metz, parce qu'ils sont plus, mais il n'y a plus d'exposition, il n'y a plus de rotation d'exposition, il y a aussi la question de la scène, parce qu'ils ne sont pas loin de Nancy, donc il y a des rapports à la danse, puis bon, Emma Lavigne s'en occupe aussi beaucoup, même si c'était déjà avant elle, donc ce n'est pas les mêmes structures, mais je ne connais pas le travail de médiation, mais j'imagine qu'il y en a aussi. Mais je trouve que là, il faut rendre quand même hommage au travail qui est fait, et il faut arrêter, moi je ne suis pas pour la démocratisation, vous savez à quel point je n'aime pas ce mot.
Le territoire est moins facile. Je
n'aime,
au départ, hein.
Bien sûr, mais je n'aime ni ce mot de démocratisation, ni ce mot de médiation, et je vois ce qui se fait, et quand il se fait, et qu'on donne confiance à des jeunes, là, et qu'on inverse les rapports de trajet, de maison et de lieu, et qu'on oublie l'élitisme, et que tout le monde peut avoir accès, je dis, écoutez, donnons plutôt la faveur à ce qui se fait, plutôt que de devoir toujours regarder la moitié du verre vide.
Et Martinet.
Et de fait, Corinne, les chiffres vont vous donner raison.
Il y a
eu une étude en 2015 sur le Louvre Lens qui a montré que 56% des personnes qui venaient dans ce musée étaient peu familiers du musée, contre 43% en moyenne. Donc on voit qu'il y a un véritable travail d'une part. Ensuite, la deuxième précision que je voulais apporter, ça concernait le centre Pompidou-Metz. Et ça me semble une différence peut-être importante, bien que j'ai pas le chiffre avec le Louvre Lens, mais que c'est que 90% du budget de Metz est assuré par les collectivités locales. Donc il y a aussi une véritable pression locale et des mésententes locales, on le voit assez évidemment dans la presse, qui fait que la ligne budgétaire n'est pas forcément pérennisée. C'est ce qu'on a vu en 2014, je crois qu'on a une période de 3 mois, ils n'ont pas pu organiser d'exposition.
Absolument.
De ce point de vue-là, ce qu'on peut attendre du ministère de la Culture, je ne sais pas, parce qu'effectivement, Françoise Nyssen ne s'est pas exprimée sur la qualité de gestion, c'était pas non plus dans le programme de En Marche. La seule chose que je peux dire, c'est qu'elle a été urbaniste, qu'elle est belge de naissance, Françoise Nyssen, donc ça devrait l'intéresser. Et évidemment, l'architecture, ça l'intéresse. On a deux beaux exemples avec ces musées-là. Peut-être un dernier point simplement à ajouter. Non.
Vous cherchez dans vos fiches, mais Frédéric Bonnet avait envie de s'exprimer.
Oui, quand on parlait de risque, il y a un autre risque, je crois. C'est ce qui avait été amorcé par notre ancienne ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, pour ne pas la nommer, qui amorçant un désengagement budgétaire progressif à propos du Pompidou-Metz, a eu cette idée brillante de dire: oh, mais on fera moins d'expositions, on va montrer les collections du Centre Pompidou. Déjà, le musée n'a pas été conçu pour ça et n'a pas été pensé de cette manière-là. Et deux, on sait très bien qu'un musée ne survit pas s'il n'a pas une rotation d'expositions qui font venir du public. Du public
en venir
plus,
et revenir.
Ça fait de la billetterie, ça fait de la trésorerie. Donc si on veut se tirer une balle dans le pied, la brillante idée d'Aurélie Filippetti, c'est ce qu'il faut mettre en place immédiatement.
Voilà, on termine là-dessus, Xavier.
Le centre Pompidou Mobile n'a pas marché de ce point de vue-là. Ce que je voulais ajouter sur le centre Pompidou Metz, c'est qu'il y a un véritable motif d'incertitude avec les propos de Serge Lavigne, le directeur du centre Pompidou, dans la presse dernièrement, puisqu'on voit qu'il veut se recentrer sur l'international, recentrer, en tout cas se délocaliser beaucoup plus, s'étendre à l'international, et que c'est pas forcément la priorité que le développement régional. Donc à suivre.
À suivre, et on suivra, forcément. Allez, quelques minutes de recommandations des critiques présents ce soir. Géométriquement douce, c'est pas une chanson de Mylène Farmer, c'est une exposition de la galerie Jean Fournier. Corinne Rondeau, oh si, je suis sûre.
Non, géométrique et douce aussi. Le mot mais douce est peut-être sympathique. Mais c'est vrai que... Alors moi, j'y suis allée parce que j'avais vu un travail de Jane Harris dans une autre galerie, Galerie Sémioz, il y a quelque temps. Et j'ai voulu revoir ça. Et donc, c'est une exposition qui est faite par un des artistes qui est exposé là, en partenariat Pierre Mabille, avec la directrice de la galerie Jean Fournier. Et... Alors, c'est très intéressant parce que là où il y a du géométrique et on peut dire peut-être aussi du minimalisme, ça travaille sur des motifs de tissu, ça travaille sur vraiment la reprise de la ligne sur la ligne déjà près du tissu, donc c'est déjà là, avec Olivier Soulorin, voilà. Il y a un travail de calque avec Florine Donani, de figures assez simples, mais dont la transparence, là encore, donne un rapport, je dirais, de proximité. Il faut s'approcher beaucoup pour voir ces motifs géométriques apparaître, disparaître, voir comment ça se donne dans une temporalité. Et ça, j'ai trouvé très agréable de voir ces formes un peu géométriques et minimales dans ces rapports temporels que j'ai beaucoup apprécié, et notamment Jane Harris, que j'aime beaucoup parce que la question de la répétition, alors c'est une peinture qui est faite comme, je sais pas, c'est vraiment le travail là d'un ouvrier aussi, entre la broderie, l'orfèvrerie et l'enluminure. C'est vraiment un travail très très long, alors que c'est tout simple, c'est une manière de répéter un motif, de travailler avec deux couleurs ou trois sur le même a priori, hein. Et quand vous approchez, vous voyez toute la touche, le travail de la brosse, et donc toute la temporalité de toutes les œuvres, qu'elles soient de Pierre Mabille, de Jane Harris, de Florence d'O, Nani, ou d'Olivier Soulerin, et encore de Nicolas Guillet, qui lui, par ailleurs, fait des... Vous vous approchez, vous croyez que c'est de la photo de sculpture, de volume, et en fait, c'est un travail en logiciel 3D. Donc, en fait, c'est de la sculpture sans sculpture, c'est de la peinture sans peinture. Donc, tout ce rapport à la forme géométrique, c'est aussi travaillé par le médium. Il y a, par exemple, Pierre Mabille, c'est de la gravure sur bois. Il y a un rapport à la matière qui est très long, un travail qui est à la fois laborieux mais en même temps minutieux, et donc ça donne toute une dimension de légèreté, de temporalité. Donc avec quelques pièces, on peut faire un tour et se dire que finalement la géométrie n'est pas encore morte, elle a encore de belles choses à nous dire, et elle a un beau velouté, il y a de jolis rideaux devant lesquels on passe, parce que on découvre tout le temps d'autres choses.
Géométriquement douce, exposition collective à la galerie Jean Fournier, à découvrir jusqu'au 3 juin. Et Frédéric Bonnet, qui nous fait toujours l'amitié de venir entre deux avions dans cette émission, va nous parler maintenant de la Biennale du Whitney, le Whitney Museum of Art de New York.
Oui, pour la première fois, elle se tient dans le nouveau bâtiment du Whitney, de Renzo Piano, sur lequel je suis assez partagé, je dois dire. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que une biennale, c'est quand même, quelle qu'elle soit, toujours très inégale. Celle-là l'est aussi, comme les autres, mais il y a inégale et inégale. Et cette année, je dois dire que j'ai été très impressionné par cette biennale, que j'ai trouvé quand même globalement très réussie. Confié à deux jeunes commissaires, Christopher Liu et Mia Lox. Et c'est une exposition qui affirme un parti pris sur la violence sociale de l'époque. C'est pas forcément nouveau, mais en tout cas la manière dont il le traite est assez intéressante. De manière transgénérationnelle, il y a des artistes très jeunes, il y a des artistes beaucoup plus confirmés, et surtout c'est une artiste qui est très dure. C'est une exposition, pardon, qui est très dure dans les préoccupations qu'elle aborde. Ça parle de violence urbaine, ça parle d'inégalité sociale, ça parle de crise économique, ça parle de tension raciale, ça parle d'extrémisme politique. Donc tout ça, c'est quand même pas drôle, mais ça n'en est pas une exposition désillusionnée. Et c'est ça que j'ai trouvé assez fortiche dans cette exposition, c'est que le tableau est quand même le tableau d'une époque très très sombre, mais c'est pas une expo de la désillusion, c'est une expo qui est tumultueuse, qui fait du bruit, c'est les prises de parole qui sont affirmées, c'est le mouvement Occupy Museum qui fait une immense installation qui s'intéresse à la dette des artistes et comment la dette des artistes enrichit certaines élites, c'est John Kessler, qui, à mon avis, a fait la meilleure œuvre de toute la biennale, quelque chose d'assez improbable, avec deux mannequins en plastique, avec des tubas, des maillots de bain qui portent des motifs d'immeubles, entourés d'écrans plasma qui semblent figurer un plan d'eau mouvant et qui s'intéresse aux problèmes d'urbanisation densifiée et de changement climatique. C'est par exemple William Popel ou Henry Taylor, dont on avait parlé à Lyon, avec sa peinture toujours remarquablement précise quant aux questions raciales. Et voilà, j'ai trouvé que cette biennale du Whitney était une des meilleures éditions depuis pas mal de temps.
Bien voilà, il fallait le dire. Je note qu'il y a aussi notre ami Anne Millet, dont l'exposition est toujours en cours à la galerie Marianne Goodman.
Marianne Goodman, tout à fait.
À Paris. Oui, si, j'y étais encore samedi, donc elle est toujours là.
J'ai vérifié. Dans la librairie.
Absolument, voilà. Parce que j'avais raté la première fois. Mais grâce à vous, cette fois-ci, je n'ai pas raté. Beaucoup d'artistes impressionnants et ce que vous nous en dites donne très envie. C'est jusqu'au 11 juin, cette biennale du Whitney à New York.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute art plastique, peu de temps, mais on va se rendre rue Chaptal à Paris, au Musée de la Vie Romantique, pour y découvrir l'exposition « Le pouvoir des fleurs », Pierre-Joseph Renouté, commissariat assuré par Catherine de Bourgoin, Jérôme Farigoul et Sophie Éloi. Alors, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de jardin. Bon, je plaisante, bien sûr, avec l'exposition du Grand Palais et celle de Pompidou-Metz. Nous voici à nouveau le nez dans le pollen. Petit rappel, tout d'abord, pour dire que Pierre-Joseph Redouté, né en 1759, mort en 1840, longue vie pour l'époque, peintre wallon, surnommé le Raphaël des fleurs. Rien que ça, il ne faut pas dire ça devant Corinne Rondeau. Peintre botaniste, c'est l'âge d'or des sciences naturelles, bien sûr. Il va collaborer avec beaucoup de grands naturalistes de son temps. Il reproduit à l'aquarelle, sur vélin, les spécimens rapportés du monde entier. Il est aussi graveur, éditeur, professeur. L'exposition présente donc 250 peintures, aquarelles, objets d'art et vélin qui sont très fragiles. Et donc, il y aura 3 saisons dans cette exposition parce qu'on ne peut pas les montrer très longtemps. Frédéric Bonnet.
Oui, moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans cette exposition, c'est que ce Pierre-Joseph Redouté nous montre à la fois un travail scientifique, un travail d'érudition, un travail de savant, de collecte, et donc qu'il aborde des albums, hein, c'est très minutieux, des albums de toutes les plantes, les espèces, les fleurs qui sont ramenées par des expéditions, notamment en Afrique, au 19e siècle. Donc c'est à la fois un travail scientifique et érudit et à la fois un travail artistique. Donc il y a une sorte de combinaison hybride dans cette pratique, dans ce travail. Et ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que cette exposition, elle pointe bien le goût à la fois pour la connaissance et à la fois l'émergence d'un nouvel exotisme au XIXe siècle, avec justement, là encore, ce qui est donné à voir, de cette classification d'espèces inconnues, qui répond aussi à un goût décoratif pour l'époque, mais aussi un goût des jardins qui a tendance à se déplacer au XIXe siècle vers ces nouvelles espèces. Et un goût décoratif où le motif floral va devenir quand même assez majeur. C'est quand même pas anodin de noter que Redouté a été nommé peintre de fleurs de l'impératrice Joséphine en 1805. Peintre de fleurs de l'impératrice. Oh, j'en suis resté babou.
Ah, ça fait une sacrée carte de visite.
Ah oui, non, ça c'est un peu la claque quand même. Vous la prenez dans la figure. Et donc je trouve que cette exposition dit beaucoup d'un goût de l'époque, y compris jusqu'à aller de manière assez assez intéressante, explorer l'extension de ce goût floral à de multiples domaines des arts appliqués, que ce soit la porcelaine, que ce soit la soierie, que ce soit le textile, voilà. Donc c'est pas simplement les fleurs peintes par Redouté, mais c'est aussi beaucoup de choses que ça a engendré par la suite et de ce que ça dit du goût d'une époque, que j'ai trouvé assez intéressant dans cette exposition.
Le goût des fleurs, Corinne Rondeau.
Ah oui, bah j'étais déjà chez Delacroix il y a quelques
oui,
temps.
Bah on donc, en parlait, oui. Fleurs.
Oui. Alors, l'exposition est assez remarquable. Un, parce que voir des vélins qui appartiennent aux collections du muséum, puisque avant le muséum, il y avait le jardin du roi. Donc, le 10 juin 1793, il devient le muséum. Et donc, on a des collections absolument admirables. Le travail sur vélin à l'aquarelle, je me suis dit, c'est de la gravure. Vous regardez l'étiquette, non, c'est de l'aquarelle. La précision, effectivement, le mérite de Redouté, c'est sa précision, sa minutie, le détail, et effectivement, son attachement, parce qu'il travaille, il est lui-même un botaniste, il va regarder, enfin, l'horticulture, ça le connaît, on va dire. Et donc, il y a un travail scientifique qui se fait, indépendamment d'être simplement le peintre des fleurs ou le Raphaël des fleurs. C'est vraiment du côté de la science, avec une hiérarchisation très forte de l'inné, binomale. Donc, c'est pour ça que dans la dernière salle, on a une tablette numérique où on voit le tableau, le livre qui est justement adressé, dédié à l'impératrice Joséphine, où on va voir tout le classement. On part de la racine, de la tige, à la fleur, au calice, à la corolle, à l'étamine, les pistils et le fruit. Et en fait, sur une planche de vélin...
Vous l'avez très bien dit.
Et vous avez, sur chaque planche, vous avez la fleur, et puis en fait, en bas, vous avez tous ces détails-là. Mais quand vous avez l'œil là-dessus, moi je suis sortie avec la migraine, évidemment, parce que je voulais être encore plus près, mais on apprend effectivement dans le livre qu'il travaille au microscope et à la loupe pour certains détails, et que la couleur ne sert qu'à mettre la fleur. Et quand il n'y a pas la fleur, il n'y a pas de couleur. Et donc, ce qui est formidable, c'est qu'il y a toujours aussi l'herbier qui permet de rectifier ou d'amener un peu plus de précision sur l'herbier. Notons par ailleurs que ce n'est pas des vieilleries. Vous avez peut-être appris il y a 15 jours que les douanes australiennes ont détruit un herbier de 2 siècles du Muséum d'histoire naturelle français parce que le papier était mal rempli. Ils ont eu peur des spores, comme ils ont eu peur des chiens de Johnny Depp il y a quelques années. Donc, voilà. Donc il y a une actualité quand même scientifique et il y a à la fois un intérêt scientifique de ces vélins, de ce rapport et de cet œil vraiment scientifique dans une époque qui est celle de la connaissance du monde à travers les explorateurs. Rappelez-vous aussi le Bounty, pourquoi il y aurait la révolte, c'est qu'on donnait de l'eau aux plantes et pas aux marins. Donc à un moment donné, cette exposition dont on estime qu'elle est très lointaine de nous, elle ramène tout un imaginaire d'exploration de toutes ces plantes qui reviennent là. Vous parliez d'exotisme aussi, mais ce qui est formidable dans cette exposition, c'est que c'est à la fois la science qui va être traversée par ce goût de la peinture décorative, dont Baudelaire d'ailleurs critique, il dit c'est peintre, puisqu'en fait c'est le sous-genre qui est la nature morte que va récupérer finalement les peintres de fleurs, sous-genre, donc on leur donne jamais de poste à l'Académie des Beaux-Arts, mais finalement ce peintre des fleurs, parce que l'histoire de Redouté c'est que ça finit plutôt mal quand l'impératrice Joséphine disparaît puisque ses recueils lui coûtent trop cher parce qu'il le fait toujours à la gravure alors qu'il y a la lithogravure, bon bref. Et ce qui est bien, c'est que ces recueils vont donc beaucoup donner aux manufactures de Sèvres et aux soieries, qu'il va y avoir une relecture par le biais des arts appliqués, et on a des objets, un pistolet à parfum, mais je vous dis que ça. On a des assiettes peintes de manufactures de Sèvres, c'est une folie furieuse. Moi, je trouve ça d'une beauté folle. On a des éventails écaillés. Mais mamma mia, comme il fait chaud dans notre studio en ce moment, on rêverait d'en avoir, de faire bruit dans le micro pour que vous l'entendiez de l'autre côté du poste. On a aussi ce rapport de comment la science donne des arts appliqués et comment les arts appliqués à l'école de Lyon va redonner une forme plastique. Et donc, ce qui est formidable, c'est que la mode des fleurs vient des explorateurs et de la science, et que finalement on rénove et on renouvelle quelque chose de la représentation, y compris dans un sous-genre, à travers le monde extérieur. Et ce que j'ai trouvé formidable, c'est qu'on a à la fois un mouvement de mode et à la fois un mouvement des arts appliqués, et en même temps l'idée de la représentation qui est toujours regarder le monde extérieur, il vous donnera peut-être quelque chose au lieu de se regarder le nombril. Et c'est une grande, je trouve que c'est une grande exposition, alors qu'il y a très peu d'œuvres par rapport aux grandes expositions qu'on a. Et ce grand mouvement, je dirais, ultra contemporain de passer de la science aux arts appliqués, mais aussi à l'art lui-même, même si c'est, comme le disait Baudelaire, des tableaux de salle à manger, finalement, c'est pas si mal que ça. En tout cas, c'est le pur art décoratif.
Eh bien, quelle flamme!
Oh, écoutez, dès qu'on parle de fleurs.
Frédéric Bonnet, est-ce qu'on évoque la dimension contemporaine de l'exposition?
Pour l'enjeu, c'est bien d'avoir mis des artistes qui ne sont pas des artistes, mais des artisans.
Des artisans qui sont métiers
des métiers
d'art.
Voilà. Ouais. Après, c'est un parcours dont
on peut.
J'ai fait remarquer qu'on aurait pu se passer d'un peu moins d'œuvres.
Ouais. On aurait pu se passer, je pense, de 98%. C'est assez embarrassant, quand même. C'est très dommage.
Oui, c'est dommage.
C'est dommage. Après, justement, la réussite de l'exposition, ça aurait pu être une bonne idée d'étendre ça à la période contemporaine. Mais il aurait fallu.
Rarement une bonne idée.
On fait
le constat que.
Oui, c'est vrai, en fait. Ouais,
pardon.
On est toujours très optimiste avec ce genre d'idées, mais c'est vrai qu'au final, ça produit souvent des catastrophes, et là, en l'occurrence, c'en est une.
Mais on peut ne pas les voir aussi.
Mais par contre, l'enthousiasme de Corinne Rondeau est suffisamment communicatif. D'autres choses à ajouter, Frédéric Bonnet, sur le pouvoir des fleurs? On en reste là?
Oh, offrez-moi des hortensias.
D'accord, j'y vais de ce pas. On va quand même peut-être terminer l'émission. Avant cela, en rappelant que le pouvoir des fleurs, Pierre-Joseph Redouté, c'est jusqu'au 28 avril au Musée de la Vie Romantique à Paris. Alors peut-être que je n'ai pas bien dit, mais qui est effectivement en écho à cette exposition, les ateliers d'art de France qui proposent ce parcours des créations métiers d'art inédits. Donc il y a 26 créateurs contemporains qui ont été invités à dialoguer pour le meilleur et pour le pire avec l'œuvre de Pierre-Joseph Redouté. Et puis il y a bien sûr un catalogue qui est édité par Paris Musée. Et avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute, en commençant par un rappel du jeu d'hier au soir, pour en connaître la réponse, Justine Diebling va se livrer à cette tâche. La question, puis la réponse.
Alors, la question, dans quel autre film du réalisateur João Pedro Rodrigues nous sommes amenés à suivre la transformation d'un personnage mystérieux dans une quête solitaire? Et la réponse était Au Fantasma, son premier long métrage.
Et on fait gagner ce soir des passes pour deux personnes, donc allons-y accompagner. Pour le festival étonnant Voyageurs, festival international du livre et du film à Saint-Malo qui va s'y dérouler du 3 au 5 juin. Quelle est la question?
Chers auditeurs, montrez-nous les écrins de vos riches mémoires. Le nom du festival littéraire Étonnant Voyageurs est inspiré d'un poème de Baudelaire. Lequel?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez également réécouter nos émissions. Vous pouvez bien sûr aussi vous abonner au podcast de la dispute. Vous pouvez aussi nous écrire via ce site ou via la page Facebook La Dispute FC ou sur le Twitter Dispute FC. Nous vous donnons rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée à la musique en compagnie de Marie Audroux et Emmanuel Giuliani. À notre affiche, Moïse et Aaron de Schoenberg, dirigé par Philippe Jordan, mise en scène Romeo Castellucci, ça sort en DVD et Blu-ray chez Bel Air. Autre DVD, celui de Mithridate de Mozart, dirigé par Emmanuel Haïm, mise en scène par Clément Hervieux-Léger, DVD chez Erato cette fois, et puis un double CD, Debussy, l'enfant prodigue, Ravel, l'enfant et les sortilèges, dirigé par Mico Franck, double CD chez Erato. Bonne fin de soirée à l'écoute de France Culture, à 22h15, les discussions du soir, et dans quelques instants, le journal de la rédaction.